Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute.
Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va partir tout de suite avec vous. Après ce moment, cet instant Mylène Farmer, incroyable, nous allons partir dans l'exploration du Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Je vais le relire avec vous. Donc Wittgenstein, c'est juste, je pense, c'est juste le philosophe le plus important en fait pour moi. C'est le philosophe qui a inspiré Sens. C'est le philosophe qui m'a donné envie de faire en fait, comment dire, de faire du jeu de rôle mon métier en fait indirectement. Donc c'est quand même une œuvre majeure pour moi que le Tractatus. Non, fille de prof, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de deviner les secrets? Non, je ne sais pas si Usul est fan de Mylène Farmer. Voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu dis? As-tu songé que ces enregistrements pourraient tomber entre de mauvaises mains bien plus tard dans notre histoire? Oui, certainement, certainement, des enregistrements vont tomber dans des mauvaises mains. Exactement. Oui, j'en ai l'idée, j'en ai l'idée. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, François, mais j'ai ouvert un onglet avec Le Monde Logique, qui est donc l'ouvrage de Miphos Kadria, qui est un personnage de Sens qui porte sur le Tractatus Logico-Philosophicus, et donc qui est un ouvrage d'explication, qui est un ouvrage en fait, un recueil de conférences en fait, de Miphos Kadria, donc encore une fois qui est un personnage fictionnel hein, de Sens, qui est un recueil de conférences qu'on peut trouver dans l'œuvre de dans le jeu de rôle Sens, et donc qui présente en fait, comme vous pouvez le constater là à l'image, à l'écran, qui présente en fait les aphorismes du Tractatus et qui les décrit, qui en fait un commentaire un petit peu similaire à celui que je vais vous faire ensemble. Celui que je vais vous faire ce soir, qu'on va faire ensemble. L'idée en fait de ce commentaire, c'est qu'il est orienté en fait, parce que Miphos Kadria a une vision particulière en fait du Tractatus. On verra que c'est la vision qu'en avait le Cercle de Vienne. On en parlera bien entendu au cours du commentaire de Ludwig Wittgenstein. Solipsis, donc Soren Solipsis, qui est un autre personnage de Sens, ayant bien sûr une autre vision du Tractatus, celle plutôt de Cora Diamond. Mais on aura l'occasion de parler de tout ça au cours du commentaire. Allez, on va se lancer tout de suite dans le Tractatus. La racaille positiviste, nous dit Rosarg. La racaille positiviste, j'imagine que tu fais référence au sac de Vienne. Évidemment. Voilà. Alors, que nous dit Wittgenstein dans son avant-propos? Il nous dit « Ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées, ou du moins des pensées semblables. Ce n'est donc point un ouvrage d'enseignement. Son but serait atteint s'il se trouvait quelqu'un l'ayant lu et compris, en retirerait du plaisir. » Alors là, donc, on est en train de lire l'avant-propos, qui a été traduit par Gilles Gaston Granger. Gilles Gaston Granger, c'est celui qui a donc traduit les éditions, les textes de Ludwig Wittgenstein que vous trouvez dans cette édition-là, qui est l'édition de chez Tell, de chez Gallimard, et qui est moi l'édition avec laquelle j'ai le plus d'affection, puisque c'est celle avec laquelle j'ai découvert le Tractatus, n'ayant découvert sa version anglaise et sa version allemande que bien plus tard, et n'étant pas locuteur de l'allemand, je n'ai pas pu la lire en allemand, je l'ai parcourue en anglais néanmoins. Mais je l'ai pas lu en allemand, donc moi j'ai toujours pour version de référence la version donc de Gilles Gaston Granger et donc cette traduction là que je trouve assez correcte, assez poétique. Elle a été critiquée, hein. Il y a des critiques de Gilles Gaston Granger que j'ai lu avec grand intérêt et qui permettent d'affiner un petit peu effectivement la traduction de Gilles Gaston Granger. Mais voilà, pour moi, la traduction de Gilles Gaston Granger fait le taf, et donc du coup, j'ai choisi de vous présenter celle-là, aussi parce que j'ai un affect particulier avec cette traduction. Voilà, voilà. Alors ici, on voit que dès le premier paragraphe de l'avant-propos, ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées. Ce n'est pas un livre d'enseignement, c'est un livre duquel il faut retrouver du plaisir. Wittgenstein nous annonce ici que c'est un livre qui contient en fait des pensées, des idées. mais que c'est un livre dans lequel on va pas lire un livre dans lequel on trouvera forcément des vérités, au sens où on l'entend habituellement, ou des propositions vraies, j'aurais envie de dire. C'est un livre dans lequel on va trouver un ensemble de propositions qui feront sens, qui feront un grand poème significatif, et qui nous permettront d'en saisir la signification. La signification. L'objectif de Wittgenstein, et il le dit ici dès cet avant-propos, n'est donc pas avec le Tractatus d'énoncer un certain nombre de vérités, mais plutôt de montrer un certain nombre d'éléments. Et c'est déjà en fait quelque chose de très important ici que nous annonce cet avant-propos. C'est déjà en fait quelque chose d'étonnant parce que on pourrait s'attendre d'un livre de philosophie qui nous énonce quelques vérités ou qu'il cherche à tendre à dire le vrai. Or ici, Wittgenstein nous dit, attention, l'objectif de ce livre n'est absolument pas d'enseigner quoi que ce soit. Il est d'abord et avant tout de vous faire ressentir du plaisir et de vous le faire le traverser comme un livre agréable. Et ça déjà, c'est quelque chose de très perturbant. Le livre traite des problèmes philosophiques et montre, à ce que je crois, que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes. Tout ce qui proprement peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Ici, on nous dit que le livre traite des problèmes philosophiques et montre que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. Donc ici, on voit que Ludwig Wittgenstein, dans un premier temps, s'inscrit dans la tradition de la philosophie dite philosophie analytique. La philosophie analytique, c'est un type de philosophie qui envisage les problèmes philosophiques d'abord et avant tout comme des problèmes liés à notre langage. Et donc la philosophie analytique suppose que si le langage était bien analysé, soit il n'y aurait plus du tout de questions philosophiques, ce qui est une hypothèse de la philosophie analytique, soit que les questions philosophiques peuvent être posées ou peuvent être analysées à l'aide d'une étude rigoureuse du langage. Donc la philosophie analytique, c'est le lien entre les grandes questions philosophiques et l'analyse du langage. Et donc ici, à travers cette proposition, lorsqu'il dit que le livre traite des problèmes philosophiques et montre, à ce que je crois, que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue, Wittgenstein s'inscrit dans la tradition de la philosophie analytique. Alors, parmi les gens qui forment la tradition analytique, on a des gens comme Frege, comme Russell par exemple, et qui sont d'abord et avant tout des logicistes. Les logicistes, ce sont les gens qui cherchent à fonder les mathématiques sur la logique formelle. Si vous voulez en apprendre plus sur ces gens, je vous invite à lire le Logicomics, qui est une petite bande dessinée grecque qui parle en fait de l'histoire du logicisme, de l'histoire de Bertrand Russell et de son entreprise logiciste. Dans ce livre, vous trouverez les personnages de Frege, de Russell et de Wittgenstein qui s'inscrivent pleinement dans cette tradition. Néanmoins, Wittgenstein est un peu à part dans cette tradition logiciste, car même s'il va s'intéresser aux travaux de Frege et de Russell, Wittgenstein, lui, va s'inscrire en faux dans ses travaux. Il va tenter de leur montrer que leur entreprise est vaine, et nulle et non avenue. Et à travers le Tractatus, il cherche en fait à donner une leçon à ses anciens maîtres, à ses anciens professeurs. Donc si Wittgenstein s'inscrit bel et bien dans la tradition de la philosophie analytique, on verra par la suite qu'il s'en éloigne en prenant une espèce de tangente très étrange qu'on analysera ensemble. Donc voilà, je vous invite à lire le Logicomics, qui est une petite BD qui est très pratique pour se faire un petit brief rapide sur le logicisme, la philosophie, donc les débuts de le logicisme, pardon, et donc les débuts de la philosophie analytique, en fait. Comment en fait va naître cette ambition de résumer en fait certains problèmes philosophiques, enfin de réduire certains problèmes philosophiques à des problèmes de logique ou à des problèmes linguistiques. Et donc dans ce livre, vous trouverez une présentation des personnages de Frege, de Russell et de Wittgenstein. Alors je n'aime pas trop le Wittgenstein décrit dans le Logicomics, mais néanmoins, il était là, ça s'est proche de la réalité. Wittgenstein était quand même un personnage assez insupportable, assez imbuvable, il faut le dire, hein, mais bon, voilà quoi. On peut pas, on fait pas, voilà. On fait pas de génie sans. sans casser les œufs de Russell. On va dire ça comme ça. Et de Frege. Donc voilà, je reviens à mon Tractatus et à l'avant-propos. Donc on voit ici, donc dans cet avant-propos, qu'il nous dit que le livre va traiter des problèmes philosophiques et va montrer que leur formulation repose donc sur une mauvaise compréhension de la logique du langage. Donc une fois de plus, parce que il tabassait des gosses, nous dit fille de prof. Effectivement, c'est vrai. Ludwig Wittgenstein a effectivement été un très mauvais enseignant, un très mauvais professeur des écoles, où il a été effectivement, où il a commis des actes de violence sur des enfants. À savoir aussi que, à l'époque où Wittgenstein enseignait, il y avait des théories, en fait, évidemment, que l'on sait aujourd'hui, fondamentalement fallacieuses, des théories qui prétendaient que les enfants, en fait, apprenaient plus vite si on leur tapait plus fort dessus. Donc voilà, comme Wittgenstein n'était pas très déconstruit du point de vue de l'enseignement en primaire, eh bien, il a effectivement commis des actes impardonnables sur des enfants, et notamment, effectivement, il a frappé des enfants. C'est des choses qui sont avérées, qui ont été documentées. Effectivement, c'est une très bonne raison de critiquer, c'est une très bonne façon de critiquer le personnage, la personne de Wittgenstein. Alors, on y va, on continue. Tac, tac, tac. Alors oui, je voulais vous commenter la suite du paragraphe, avant qu'on s'égare sur ces histoires d'enfants battus, mais qui sont malheureusement la triste vérité. On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes. Tout ce qui proprement peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Alors pourquoi Wittgenstein dit ça? Eh bien, Rosargue dit quoi? Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, je vais te coller une tarte à 5 doigts, c'est pour te permettre de faire l'ENA et Normal Sup. C'est ça, ce serait un résumé de la théorie de l'époque. Et donc voilà, Wittgenstein a frappé des enfants pour leur faire apprendre des tables de multiplication. Horrible, horrible, horrible. C'est pas la meilleure période de sa vie. Le Wittgenstein qui écrit ce livre ne l'a pas encore fait, ceci dit. Puisque c'est le jeune Wittgenstein qui écrit ce bouquin, donc il est encore innocent au moment où ce livre est écrit. De ses méfaits. Allez, on continue. On pourra parler, si vous voulez, ensemble de la vie de Wittgenstein. Il y a un excellent bouquin, le bouquin de Monk, qui est un très très bon livre sorti assez récemment. Il a que 10 ou 15 ans, je crois. Le livre de Monk, qui est une biographie de Wittgenstein, dont on parlera peut-être plus tard, et qui explique toute la vie de Wittgenstein en détail et tout. Très intéressante biographie. Et on pourra en parler, si vous voulez, du personnage Wittgenstein plus tard. On va essayer de se concentrer sur Tractatus. Je vais essayer de me concentrer sur Tractatus et de pas me laisser distraire par les trolls du chat. Alors, donc, on pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes. Tout ce qui proprement peut être dit, je vais y arriver, peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Alors, l'ambition du Tractatus de Wittgenstein, comme il l'a dit, donc les problèmes philosophiques reposent sur une mauvaise compréhension de la langue, et la thèse de Wittgenstein dans le Tractatus, c'est de dire qu'en fait, les gens qui font de la philosophie cherchent à utiliser le langage d'une manière qui lui est inappropriée. Le langage n'est pas fait pour parler de philosophie. Et donc, ce que veut dire Wittgenstein par cette phrase, c'est que si on emploie correctement le langage, tout ce qu'on dit est très clair et donc ne soulève aucun problème, et surtout pas des problèmes philosophiques, et que s'il s'agit de choses dont le langage ne peut pas parler, qu'il ne peut juste montrer, ou de problèmes existentiels, on va dire, de problèmes philosophiques, eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas employer le langage pour en parler, il faut plutôt faire un poème, faire de la musique, embrasser quelqu'un. Si c'est une problématique existentielle ou un problème philosophique que vous voulez explorer, Wittgenstein dira dans le Tractatus, le langage n'est pas outil adéquat pour se poser des questions philosophiques. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on vient de se dire là. La thèse de Wittgenstein, c'est donc de dire que la philosophie, plus exactement le langage, n'est pas fait pour la philosophie. Et donc du coup, quand Wittgenstein fait cette découverte, ou croit en fait faire cette découverte, il pense avoir donné une réponse définitive à toutes les questions philosophiques, tenez-vous bien. Il pense globalement, il dit, bah voilà, en fait, toute la philosophie, c'est bullshit. C'est juste en fait que la philosophie, c'est l'histoire de gens qu'on appelle des philosophes, qui utilisent le langage pour se poser des problèmes existentiels. Or, comme le langage n'est absolument pas fait pour ça, eh bien, ces gens se posent des questions existentielles à l'infini et ne trouvent aucune solution, aucune réponse, aucun résultat. Parce que l'outil qu'ils emploient, le langage, n'est pas fait pour répondre aux questions qu'ils se posent, les questions existentielles, philosophiques et compagnie. Donc, en fait, après avoir écrit le Tractatus, qu'est-ce qu'il va faire Wittgenstein? Il va dire hey, « Ciao les gars, moi je me barre, vous faites de la merde, et moi je vais ailleurs. Je vais aller taper des enfants, ce sera beaucoup plus instructif, ou m'occuper d'un monastère quelque part dans la montagne. » En tout cas, voilà, Wittgenstein, il quitte la philosophie après le Tractatus. Donc, voilà, au moins, il a, comment dire, comment dire. Il a le courage de ses propos, si j'ose dire, puisqu'il va jusqu'au bout de sa démarche. Hein. Un peu comme Ezra Pound qui dit, bon bah puisque le langage ça sert à rien, j'arrête de parler. Et qui arrête de parler définitivement. Toute sa vie. Toute sa vie. Parle plus. Et bah Wittgenstein, c'est pareil. Il dit, bon bah la philosophie, c'est de la merde, le langage permet pas de faire de la philo, donc de toute façon, hop, faut pas en faire, faut pas écrire des livres pour parler de philo, ça sert à rien, goodbye, moi je vais dans un monastère. Et il le fait. Et il le fait, le con. Mais il va revenir après. Il va revenir après. Il va faire. Il va y avoir un Wittgenstein 2. Il va revenir à la philosophie, cette petite crapule. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, vous voyez, le livre, ni plus ni moins, il dit bon, bah d'abord, petit 1, j'ai rien à vous enseigner. Bah oui. Alors, du coup, on comprend beaucoup mieux le premier paragraphe. C'est normal qu'il nous dise qu'il a rien à nous enseigner, puisqu'il pense que de toute façon, le langage ne peut pas enseigner la philosophie. Et qu'on ne peut pas faire de la philosophie avec le langage. Donc le mec, il est logique. Dans son premier paragraphe, il dit « Oh, de toute façon, le livre-là, vous savez, j'ai écrit ce livre, mais il sert à rien. Hein. Vous pouvez, si vous y prenez du plaisir, c'est cool, mais il n'y a pas de vérité dedans. » Forcément, il n'y a pas de vérité dedans. Parce que s'il disait dans le premier paragraphe « J'ai trouvé des vérités philosophiques, machin truc, etc. », il se contredirait lui-même en disant que le langage ne permet pas d'accéder à des vérités philosophiques. Donc du coup, il est obligé de dire « Juste prenez votre pied. Prenez votre pied, c'est un poème. Suivez-moi, suivez mon raisonnement, suivez mon regard, suivez ma petite poésie, là, mon petit tractatus. » Et logiquement, si vous réussissez à comprendre le sens profond des pensées qui y sont énoncées, vous arriverez à la même conclusion que moi, à savoir que le tractatus, c'est de la merde, que le langage n'est absolument pas fait pour la philosophie, que toutes les propositions philosophiques sont insensées, et qu'en gros, il faut jeter le bébé, l'eau du bain, et prendre son pied, et garder le silence. Comme Ezra Pound. Voilà. Donc le premier paragraphe, là-dessus, est très cohérent. Avec le deuxième. Ça va, vous suivez? Et vous me dites, hein, vous m'arrêtez si je suis complètement fou. Hein. D'après ce Wittgenstein, un bouquin de philo, c'est genre un livre d'images, des poèmes, des chansons, etc. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est la conclusion du Tractatus. Je suis désolé, mais dans cet avant-propos, je suis un peu obligé de vous spoiler le Tractatus. Hein. Mais après, on va étudier le raisonnement ensemble, et on va voir comment ce putain de raisonnement, même s'il a aucun sens, il est putain de convaincant, quoi. C'est un délire, en fait, ce truc. Et sortir de la fausse prison que nous a créé Wittgenstein, en réalité, c'est extrêmement difficile, et il faudra de nombreuses réflexions philosophiques et de nombreux contre-arguments pour sortir, en fait, d'espèce de nasse dans laquelle on va tomber à travers le Tractatus. Wittgenstein 2, où après avoir détruit toute la philosophie, le petit Wittgenstein décide de détruire tous ceux qui l'ont mal compris entre temps. Ouais, c'est pas faux. Oh, il y a Hotchap Hat qui vient de nous suivre apparemment. Eh bien, bienvenue à toi, Hotchap Hat. Merci beaucoup de suivre cette chaîne. On est en train de parler du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein et ça va péter. On vient déjà de casser toute la philosophie. Là. On vient de péter la gueule à Kant, à Nietzsche. Peut-être pas Nietzsche. On vient de péter la gueule à Kant, à tous les gens qui prétendaient dire des trucs en philo. On leur a dit non, ta gueule. Le langage, il n'est pas fait pour toi, pour parler là, de la philosophie. Donc tu tais et tu vas taper des gosses dans une école ou alors tu vas devenir moine dans un monastère. Donc là, tu vois, on a déjà bien commencé. Kant l'avait un peu mérité. C'est vrai, c'est pas faux, dit Rosarg. Alors, donc, voilà. Donc, vous avez compris. Et on continue. Le livre tracera donc. Donc, on continue avec le troisième paragraphe de notre avant-propos. Wittgenstein nous dit « Le livre tracera donc une frontière à l'acte de pensée. » Oh, bon Dieu ! Ou plutôt, non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées. Car pour tracer une frontière à l'acte de pensée, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette frontière. Nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. Alors ça, c'est très compliqué à expliquer à ce stade du commentaire. Donc je me contenterai de vous dire que, pour Wittgenstein, le Tractatus nous dit en gros, voilà ce que le langage permet de faire, et c'est tout. Et donc du coup, il fait une grosse boule dans laquelle il met toutes les propositions sensées. Il dit voilà, le langage nous permet de faire ça. Le langage nous permet de faire ça et pas ça. Mais comme il le dit là, en fait, il trace une frontière à l'acte de pensée. C'est-à-dire plus exactement, il montre comment le langage ne nous permet pas de penser. Enfin, c'est pour ça qu'il dit, mais non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées. C'est-à-dire qu'il dit, le langage ne permet pas d'exprimer toutes les pensées que vous avez dans la tête. Par exemple, si vous avez envie de si vous êtes angoissé par quelque chose, eh bien le langage ne vous permettra pas forcément d'énoncer, d'exprimer en fait. À la base, nous dit Hotchap, je venais pour le JDR, mais si on fracasse Kant, ma foi, je reste alors. Trop bien, bah merci. Donc en fait, l'acte de penser, donc il nous dit voilà, je vais énoncer, je vais essayer de vous montrer tout ce que le langage peut dire, et donc par extension, je vous dirai aussi, mais sans vous le dire, en vous le montrant, tout ce que le langage ne permet pas de penser. Donc je vais tracer en fait les limites de mon langage, les limites de ce qu'il est possible de penser, les limites de mes capacités à exprimer des choses que j'ai en moi. Et donc du coup ici, voilà, c'est pour ça qu'il nous dit, attention, si je voulais vraiment tracer une frontière à l'acte de penser, je devrais énoncer des propositions concernant cette frontière. Or, on verra que c'est impossible, parce que la frontière à l'acte de penser, c'est déjà de la philosophie, et c'est déjà en dehors des capacités et des possibilités du langage. Donc, et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, il y a une tension au sein même du Tractatus Logico-Philosophicus qui est en train de se révéler ici, c'est que c'est à travers des propositions, linguistiques les plus sensées possibles, les propositions, donc des expressions de la pensée de Wittgenstein, que l'on va suivre à travers le Tractatus, c'est à travers cette expression-là qu'on va essayer de découvrir la frontière à l'acte de pensée. Vous voyez un petit peu la tension qu'il y a entre, d'un côté, un individu qui nous dit, voilà, le langage n'est pas fait pour penser n'importe quoi, et notamment ce que raconte le Tractatus. Donc en fait, il nous écrit un livre pour nous dire que ce livre qu'il écrit, en fait, toutes les pensées qui y sont énoncées sont déjà à la frontière, à la limite, en fait. Elles sont même en dehors de la limite. On verra pourquoi plus tard. Ça va? Vous dites, hein, vous m'arrêtez si. J'ai l'impression que vous comprenez tout parce que vous posez aucune question. C'est fort. En disant ce que le langage permet, on peut donc chercher les moyens pour faire le reste. Bravo Ludwig. Effectivement. Fille de prof a tout compris. C'est-à-dire que quand j'ai énoncé si je fais une loi, pardon, qui permet de si j'érige en fait un temple qui me permet de savoir quelles sont toutes les propositions possibles, du même coup. Eh bien, je peux, si j'énonce une proposition, je peux aller voir dans ce temple si la proposition y est inscrite. Imaginons que voilà, on va faire ça plus simple. Je suis paumé avec mon temple. Imaginons que j'ai une tablette sur laquelle sont écrites toutes les propositions possibles du langage. Imaginons que je te dispose de cette tablette-là. Eh bien, du coup, si j'énonce une proposition, je peux aller voir sur ma tablette si la proposition est dedans ou pas. Et donc du coup, je peux savoir si c'est une proposition du langage ou si c'est un non-sens, si c'est une proposition qui n'y figure pas et donc une tentative philosophique d'exprimer des choses avec le langage que je ne peux pas exprimer. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. Mais en gros, une fois qu'on m'a donné cette tablette, une fois qu'on m'a donné en fait la base qui permet de savoir, une première base qui nous permet de savoir toutes les propositions qu'il est possible d'énoncer, par extension, je sais aussi quelles sont les propositions qui échappent à cette base et quelles sont les propositions qui ne sauraient être énoncées? Et donc, quelles sont les propositions qui ne sont pas l'expression d'une pensée, ne sont en fait une brabouille verbale, comme celle qu'on a en ce moment-là. C'est ça qui est paradoxal. Est-ce que vous voyez un petit peu le raisonnement de Wittgenstein? Mais Fille de prof l'a très bien résumé. En disant ce que le langage permet, on peut chercher les moyens pour faire le reste. Bravo Ludwig. Tout est dit par Fille de prof dans cette. Je vous laisse relire ce petit commentaire de Fille de prof qui est pertinent, qui est très exactement ce que promet le Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Donc il nous dit, voilà, la frontière, qui est aussi celle dont nous parle ici Fille de prof en fait, hein, la frontière ne pourra donc être tracée que dans le langage. Et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens. Bah oui, forcément. À partir du moment où j'énonce toutes les propositions du monde dans un langage donné, je sais que toutes les propositions qui sont en dehors de ces propositions définies, eh bien, n'appartiennent pas à ce langage. Et donc il faudrait trouver un langage pour parler du langage, il faudrait trouver un langage qui puisse parler de lui-même en dehors de lui-même. Enfin, tout ça est absolument impossible. Tac, tac, tac. Par exemple, Poilonnet, le langage, ça se situe où? C'est du disible, mais pas du pensable. Rosark nous demande, Poilonné, les expressions poilonnées. C'est une langue, l'expression, par exemple, si tu rajoutes poilonné à la fin d'une phrase, par exemple, je sais pas, j'ai sonné, poilonné, c'est, pour moi, c'est de la, c'est pas du langage, comment dire, c'est pas une proposition du langage, poilonné. C'est une, oui, c'est de l'art, c'est de la poésie, c'est quelque chose comme ça, c'est une rime, c'est quelque chose pour amuser, c'est un comportement, c'est une geste en fait. C'est pas une proposition du langage. Arrakis nous dit le langage comme dans un temple froid servant d'enceinte aux passions. Évidemment, ça c'est une phrase de. Il fait une citation de Wittgenstein qui sert aussi de citation au personnage de Miphos Kadria. Donc c'est une référence à Sens que nous fait Arrakis. Damtus nous dit, ça me semble très dogmatique comme idée, sachant que l'histoire de la philosophie ressemble presque uniquement à de la prose. Rassemble presque uniquement de la prose. Oui, absolument, Damtus. Comment dire, le Tractatus Wittgenstein, on va le voir, est extrêmement dogmatique. Enfin, c'est pas qu'il est dogmatique, c'est qu'en fait, il ne peut pas avoir une autre position. Il ne peut pas avoir une position parce que si ses propositions étaient critiquables, il admettrait. Si les propositions du Tractatus pouvaient être critiquées, il admettrait du même coup qu'elles puissent avoir un sens. Parce que pour Wittgenstein, pour formuler une critique d'une proposition, il faut énoncer une proposition critique. Et du coup, donc il faut énoncer une contre-proposition. Et donc du coup, il admettrait que les propositions contenues, s'il n'était pas dogmatique, s'il laissait en fait le Tractatus à la critique, il laisserait penser que les propositions du Tractatus pourraient être critiquées et donc qu'elles seraient des propositions. Or, il veut surtout pas, et ça on verra après quand on analysera les lectures du Sac de Vienne, il veut surtout pas, Wittgenstein, qu'on puisse croire que le Tractatus contient un ensemble de propositions. Il veut à tout prix que les gens aient conscience que le Tractatus, en fait, c'est un poème, c'est une poésie, en fait. C'est un ensemble de propositions par lesquelles lui, il est passé. Il compare le Tractatus à une sorte d'échelle qu'il s'agirait de gravir, qu'il s'agirait de franchir pour ensuite la jeter. Donc il n'a pas d'autre choix que d'être dogmatique. Il doit être assertorique pour énoncer ses propositions. Il ne peut pas être mesuré. C'est pas possible. Dans la démarche qui est la sienne, la démarche qui est radicale, hein, c'est vraiment une pensée radicale, pensée de Wittgenstein. On pourra parler de la radicalité de Wittgenstein plus tard, mais c'est vraiment une pensée radicale. Il n'a pas d'autre choix, Damtus, que d'être assertorique. Désolé, c'est pas du troll. Je me pose vraiment la question sur tout ce qui est liant dans la langue. Oui, donc le poilonné. Hein, non, 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 mais je sais bien que c'est pas du troll, gros, ça. D'ailleurs, je t'ai vu, je t'ai répondu sérieusement. Hein, c'est pour moi tout ce qui est poilonné, tout ce qui est les expressions idiomatiques et tout ce truc. Ce sont en fait, ce ne sont pas des propositions du langage. Ce sont ce sont des comportements. Ça ne rentre pas dans le cadre des propositions du langage. Donc, ce serait sans doute oui insensé, unsinnig ou sinnlos. Ça dépend. En l'occurrence, polonais serait plutôt une zinich. Mais voilà. On verra qu'il y a plusieurs types d'insensés. Qu'il y a l'unzinich, il y a le sinlos. Le sinlos, c'est juste l'absurde des trucs bleus, gris, blargues. Ça, c'est sinlos. Et puis, quelque chose comme le bien est supérieur au beau, ça, c'est unzinich. Quelque chose d'insensé, mais qui, quand même, a l'air de construire quelque chose dans la tête, a l'air de construire une pensée. On verra la distinction entre les deux plus tard. voilà. Alors. On continue rapidement avec l'avant-propos. La frontière ne pourra donc être tracée que dans la langue. Donc voilà, donc il dit qu'il n'y a que avec le langage que l'on peut tracer la frontière du langage, mais que on peut pas montrer enfin on peut pas dire cette frontière parce qu'il faudra encore qu'elle se situe dans le langage. Je pense que vous avez bien compris. La remarque encore une fois de fille de prof de tout à l'heure était tout à fait claire de ce point de vue. Jusqu'à quel point mes efforts coïncident avec ceux d'autres philosophes, je n'en veux pas juger. En vérité, ce que j'ai ici écrit n'élève dans son détail absolument aucune prétention à la nouveauté, et c'est pourquoi je ne donne pas non plus de source, car il m'est indifférent que ce que j'ai pensé, un autre l'ait déjà pensé avant moi. Alors ça, c'est quelque chose comment dire, de très dur. Très très dur. Je lui en veux beaucoup pour ça. Je trouve quand même qu'il aurait dû au moins, mais il le fait de temps en temps, mais il aurait dû quand même au moins citer ses sources, que ce soit Karl Kraus, que ce soit Schopenhauer, ça aurait quand même facilité, ça aurait quand même facilité à ses commentateurs un certain nombre de travail. Et comme il n'a pas voulu citer ses sources, bah, toujours dans cette radicalité-là, en fait, dans la mesure où il a conscience que le Tractatus n'est pas un travail universitaire, il veut surtout pas s'inscrire dans le travail universitaire de Cambridge. Il est comment dire, il rejette en fait la dimension propositionnelle de la philosophie. Et donc, s'il commençait à donner ses sources, à sourcer ses points de vue, etc., il s'inscrirait dans une discussion avec d'autres philosophes. Et ça, il le veut pas parce que justement, il prétend que la philosophie est est un kilo de non-sens. Donc, il a absolument pas intérêt en fait à faire ce travail-là. Mais je trouve ça quand même dur. Parce que quand bien même on est poète, quand bien même comment dire, on cherche à montrer quelque chose et pas forcément à le dire, n'empêche que c'est quand même vachement bien et vachement sympa pour tous les gens qui nous ont précédés, pour tous les géants sur lesquels on est assis. Quand on est un nain comme Wittgenstein, c'est quand même sympa de préciser en fait d'où viennent les pensées qu'il énonce, etc. Heureusement, il y a des gens magnifiques, des gens formidables comme Mathieu Marion, comme David Pearce, comme Armstrong, comme Monk, dont je parlais tout à l'heure, et des commentateurs de Wittgenstein qui ont retrouvé ces sources et qui nous ont permis comme ça de retrouver en fait l'origine des pensées que Wittgenstein développe. Il est quel âge quand il écrit le Tractatus? Il y a un côté très Rimbaud à tout envoyer balader, je suis d'accord. Il est très jeune, hein, il est très jeune, il a une vingtaine d'années, c'est un petit con, c'est vraiment un petit con. Je ne sais pas exactement à quel âge il écrit le Tractatus. Tiens, je vais regarder si tu veux. Il est publié en 1921. Il est né en 89, donc ça lui fait quoi ça? Ça lui fait... Ah oui, mais attends, il est publié en 21. Ouais, il est publié en 21, mais il est écrit avant. Tu vois, les carnets datent de 1914-1916, et encore une fois, il est né en 89, en 1889. Donc, puisqu'il y a des trucs, il y a des trucs de fou sur. Il est né en même temps qu'Adolf Hitler. Et ils ont été en maternelle ensemble et tout. Il y a des anecdotes de fou. L'histoire de Wittgenstein est complètement dingue. Bref, donc 11 plus 14, ça nous fait 25 quoi. Tu vois, il a 25 ans quand il écrit le Proto-Tractatus. Donc tu vois, c'est un bon malade quoi. Le mec à 25 ans, il va te foutre la philosophie en l'air. Et effectivement, comme le dit Fille de prof, il y a un vrai côté enfant gâté, enfant Rimbaud, petit prétentieux, petit péteux. Tout ça correspond. Tout ça sont des adjectifs et des qualificatifs qui correspondent assez bien à Wittgenstein. Et Russell d'ailleurs ne lui manquera pas de lui en mettre 2-3 dans le pif quand il en aura l'occasion. Proposition égale description d'un fait qui puisse être vérifié ou non dans une réalité, un monde. Le poil au nez, c'est un jeu de mots. Alors oui, donc François nous dit, une proposition, c'est la description d'un fait qui puisse être vérifié ou non dans une réalité ou un monde. Le poil au nez, c'est un jeu de mots qui évoque une image abstraite complètement hors du monde. Donc, ce n'est pas une proposition si je ne m'abuse. Donc c'est une réponse qui est faite à la question de Rosac tout à l'heure. Effectivement, tout à fait. Arrakis, tu as raison. Globalement, ce que tu dis est correct. Une proposition est une description d'un fait qui puisse être vérifié ou non dans dans la réalité. Je dirais plutôt que la proposition est un énoncé qui construit une image. Alors, faut passer par une étape, en fait, François, faut passer par une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'une proposition est construite en vue de produire une image, et c'est cette image ensuite qui va coller ou non au fait dans la réalité. Dans le Tractatus, hein, dans les hypothèses que formule Wittgenstein dans le Tractatus, le truc c'est qu'il y a une étape intermédiaire entre ce que tu dis, la proposition et le fait. Il y a une étape intermédiaire qui est l'étape de l'image. On verra ça ensemble quand on aura l'occasion de continuer le commentaire du Tractatus. Momie Magique nous dit ne pas citer ses sources comme un essayiste sur YouTube, quoi. C'est ça! C'est exactement ça! C'est exactement ça, Momie. C'est ça, c'est ça. Il fait son youtubeur finalement, Wittgenstein. C'est un youtubeur avant l'heure. C'est surtout un petit péteux prétentieux. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres. Alors, Akisnutu, oui, c'est l'exemple qu'on donne en maths de non-insertion. Effectivement, il y a des liens entre les mathématiques. On verra en fait que Wittgenstein a inventé des choses en mathématiques et en logique formelle. Hein. Donc, c'est un gros bonhomme. Hein. Je garde une question pour plus tard sur les images et les propositions. Ah oui, gardez-moi des questions. Hein. Quand Romaric ne cite pas Mylène Farmer comme inspiration pour Solène dans Story Ipsy, c'est pareil. Ok, oui, d'accord, très bien, merci. Merci beaucoup, Rosargue. Je te revaudrai ça. Nickel. Alors, par contre, donc il y a une source qui cite, vous avez vu, c'est « Je veux seulement mentionner quant aux œuvres... » Je veux seulement mentionner qu'aux œuvres grandioses de Frege et aux travaux de mon ami Bertrand Russell, je dois pour une grande part la stimulation de mes pensées. Alors tu vois, donc là il va dire quand même, bon, je cite pas mes sources, mais il y a quand même deux bonhommes que je voudrais remercier, c'est Frege et Wittgenstein qui m'ont tous les deux mis à la philosophie analytique et qui m'ont stimulé, qui ont stimulé, leurs pensées ont stimulé la génération du Tractatus. Donc quand même Bertrand Russell et Frege sont remerciés, c'est quand même la moindre des choses, hein, mon petit bonhomme. Si ce travail a quelques valeurs, nous dit-il, elles consistent en deux choses distinctes. Premièrement, en ceci que des pensées y sont exprimées, et cette valeur sera d'autant plus grande que les pensées y sont mieux exprimées. D'autant mieux, on aura frappé sur la tête du clou. Ça c'est vraiment... ça c'est vraiment du Wittgenstein dans le texte, t'attends. Ça c'est vraiment des trucs... Des trucs de Wittgenstein. Faut savoir que Wittgenstein, à la base, a une formation d'ingénieur et que régulièrement, dans sa philosophie, il y a des espèces de relents de mécaniciens qui pop comme ça d'un coup. On aura frappé la tête du clou, tu vois. Il va te sortir une image comme ça du chapeau complètement technique, complètement issue en fait de son métier d'ingénieur. Et ça, c'est, ça fait partie aussi du charme poétique des pensées de Wittgenstein. Je suis conscient sur ce point d'être resté bien loin, en deçà du possible, simplement parce que mes forces sont trop modiques pour dominer la tâche. Puissent d'autres venir qui feront mieux. Donc ici, bien sûr, Wittgenstein dit que ce travail n'a de valeur qu'en ceci qu'il dresse justement la limite qu'on a vue précédemment, en montrant justement les pensées qui sont censées et celles qui ne le sont pas, et en du coup fixant des limites au langage et la force des expressions, et en traçant du même coup en fait, en mettant en fait la philosophie du côté en fait des choses insensées, et voilà. Donc d'autant mieux on aura frappé la tête du clou, tu m'étonnes, parce que je pense que le clou auquel il pense là et la frappe à laquelle il pense, je pense que c'est évidemment le. La, non, j'allais dire la philosophie, mais non. Ici, bien entendu, Wittgenstein a en tête l'idée d'une œuvre, en fait, d'une œuvre presque technique, d'une architecturale. Il a été architecte aussi, ce monsieur, d'une œuvre donc d'ingénieur, en fait, enfin d'une espèce de fabrication, quoi. Le Tractatus est comme une espèce de fabrication et qui est incomplète, qu'il le dit lui-même incomplète, etc. Parce que justement, voilà. Bon, bref, là ici c'est un peu le paragraphe. Je fais preuve de modestie, j'ai fait de mon mieux, les gars. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui pourront faire mieux, etc. Voilà, etc. Bon, j'y crois pas du tout à la modestie de Wittgenstein personnellement, mais bon. D'ailleurs, vous noterez quand même que c'est un des paragraphes les moins bien écrits, hein, celui où il essaye de faire preuve de modestie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, néanmoins, la vérité des pensées ici communiquées me semble intangible et définitive. Vous avez vu que le mot vérité ici est en italique. Il entend bien entendu ici une vérité qui n'est pas une vérité au sens d'une vérité propositionnelle. Comme vous le savez, la vérité, c'est d'abord et avant tout une propriété des propositions. Ce sont les propositions qui peuvent être vraies ou fausses. Bien entendu... Là, les pensées qui sont exprimées ici, ce ne sont pas des propositions. Donc, elles ne peuvent pas être vraies. Donc, la vérité dont il est question ici, il la met entre guillemets, Gilles Gaston Granger, parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'une vérité au sens de la vérité. Il ne s'agit pas de la vérité propositionnelle. Il s'agit, bien entendu, d'une vérité au sens mystique, poétique, une vérité révélée. Il y a une espèce de chose un peu chrétienne, un peu catholique là-dedans. D'ailleurs, Wittgenstein est catholique. La vérité dont il est question là, c'est je sais pas, l'authenticité, on aura envie de dire, des pensées qui sont exprimées ici. Mon opinion, voilà. Là, je le trouve beaucoup plus clair quand il s'agit d'être prétentieux. Écoutez cette phrase. Mon opinion, nous dit Wittgenstein, est donc que j'ai, pour l'essentiel, résolu les problèmes d'une manière décisive. Voilà les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? J'ai tout résolu en fait. La philosophie. C'est moi qui... C'est bon, c'est fini, c'est terminé. On plie bagage. Et voilà, ça, là c'est très clair. Là au moins quand il est prétentieux, il est très clair. Et si en cela je ne me trompe pas, la valeur de ce travail consiste alors en second lieu en ceci, qu'il montre combien peu a été fait quand ces problèmes ont été résolus. Et en plus, monsieur rajoute un petit... Voilà, j'ai fini la philo les gars, c'est ça. Le mec, il a fini la philo. Il a fini YouPorn. Le mec, il est comme ça. C'est le Chuck Norris de la philosophie. C'est le mec, il arrive à terminer la philosophie, quoi. Hein? Voilà. Tout simplement, tout simplement. Mon opinion est donc que j'ai pour l'essentiel résolu les problèmes. Voilà, point. Et en plus, il montre, il dit, mais attention, et là, hop, à nouveau, preuve de, il fait preuve de modestie, et à nouveau, vous voyez que ça commence à être un peu... Je relis la phrase, hein, où il essaye d'être modeste. Et si en cela, je ne me trompe pas, la valeur de ce travail consiste alors, en second lieu, en ceci, qu'il montre combien peu a été fait quand ces problèmes ont été résolus. Ce qu'il essaye de nous dire là, c'est... Mais rassurez-vous, j'ai terminé la philosophie, mais c'était pas grand-chose en vrai. Il y avait un petit problème, mais voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. C'était pas grand-chose. Je suis modeste, hein. J'ai juste fini la philosophie, mais il y avait un tout petit problème, tu vois. On cherchait juste à dire des choses qui étaient pas qu'on pouvait pas dire avec le langage. C'est tout, hein. Je suis pas plus loin, les gars. C'était tout simple, hein. Allez, ciao, Pantin. Voilà. Nous sommes donc en 1918. Donc, bah voilà. Voilà qui donne la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Ce putain de texte est écrit en 18. Le mec a donc 29 ans. Le mec a 29 ans. Il parle comme ça, quoi. Mec, il est bien. Et on se met bien. Ah, moi, je l'aime bien. Alors, à qui vous fait penser tout de suite? À qui vous fait penser? Enfin, le mec qui se la pète en jeu de rôle, là, qui prétend tout savoir sur le jeu de rôle. Ça fait 15 ans qu'il anime la cellule. Putain, il vous fait penser à qui, Wittgenstein, là, alors, les gars? Vous réagissez même pas, mais putain, mais c'est quoi là? Alors c'est quoi ce chat? Julien Dutheil, mais bien sûr! Mais oui, je pensais à Julien Dutheil, Rosargue, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc bon, vous avez compris hein, que Wittgenstein, c'est à la fois mon maître, c'est aussi le mec dont je m'inspire pour me la péter, tu vois. Quand j'ai envie de me la péter, je fais du Wittgenstein, quoi, c'est trop là, ça pète la classe. Bon bref. Ami fausse. Fille de prof nous dit à Miphos, il a bien raison. Effectivement, le personnage de Miphos est évidemment grandement inspiré de Wittgenstein, jusque même dans son orientation sexuelle. Wittgenstein était un homosexuel, etc. Et donc, Miphos aussi, il y a plein de comparaisons. Et c'est évidemment l'orientation sexuelle de Wittgenstein et de Miphos n'est pas le seul point de comparaison entre les deux personnages. Il y a plein de points communs entre les deux personnages que je vous invite évidemment à fouiner, à fouiller si vous aimez Sens. Alors, le mec sort juste du front de la Première Guerre mondiale où il a été se faire tirer dessus pour apprendre la vie par la proximité de la mort. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement, hein, le Tractatus donc, est publié en 1918, Wittgenstein a fait la Première Guerre mondiale du côté de la Prusse et donc il s'est mis juste... Il s'est mis juste... Enfin, en plus, non seulement il a fait la guerre, mais en plus il s'est mis juste en avant-première de la guerre. C'est-à-dire, vous savez, donc sur les bateaux... Il y a ces mecs qui tiennent la lumière pour éclairer en fait le marais. Évidemment, quand on est un adversaire du mec qui tient la lumière, qui éclaire les autres bateaux sur le bateau, bah, qu'est-ce qu'on fait? Le premier mec qu'on shoot, c'est le mec qui tient la lumière, et la lumière elle-même. Et ben voilà, c'était là qu'il s'était mis Wittgenstein. Parce qu'il faut savoir que Wittgenstein a une fascination pour la mort et une appétence toute particulière pour le suicide. Parce que Monsieur Wittgenstein avait un nombre de frères incalculables qui se sont tous suicidés. Et il est le dernier à pas s'être suicidé, lui. Et donc, du coup, à tous les moments de sa vie, il se sera toujours posé cette question de la frontière entre la vie et la mort et la question du suicide. Et donc, quand il s'engage dans la Première Guerre mondiale, moi, je suis sûr qu'il s'engage pour y crever, quoi. Donc, il accepte toutes les missions les plus dures, il côtoie la mort de près et tout ça. Et puis, quand il revient, il dit, tiens, entre-temps, après avoir manqué de 5000 fois, si je me mettais sur un bon travail philosophique et si je pétais la gueule à toute la philosophie, le mec il est comme ça, quoi. Je vais dire, voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est un peu badass, non? Enfin, je sais pas quoi. C'est le moment de ressortir votre gif d'Antoine Daniel qui fait badass, 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 non? Enfin, putain, je dis rien, mais j'en pense pas moi. Allez, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez des questions sur la fin sur la fin de la philosophie? C'est bon? Vous avez arrêté? Alors, donc si vous avez compris ce qu'on s'est dit là, logiquement vous éteignez tout là. Vous arrêtez en fait ce streaming. Vous dites la philo c'est de la merde. De toute façon tout ce que veut raconter Romaric c'est des kilos de non-sens. J'ai autre chose à foutre que d'écouter l'autre con me raconter de la merde. Et donc du coup je coupe et je vais avec ma copine, je vais avec mes enfants, je vais jouer à un truc. Et vous êtes toujours là. C'est fascinant quand même. Vous y croyez pas en fait à ce que raconte Julien, j'ai l'impression. Allez, on continue. Je vous taquine, hein. Vous me taquinez aussi, hein. Rosargue. Brand qui passe sur ce stream, je te remercie Jérôme, qui passe sur ce stream, nous dit non, non, rassure-toi Rome, j'ai coupé depuis longtemps. Ah, t'es bon toi, t'es un bon, change rien Jérôme, t'es au top. Merci beaucoup Jérôme d'être passé et de montrer ainsi qu'il écoute ce que je mes conneries. T'es trop sympa. Alors, on y va. On va commencer les premiers aphorismes du Tractatus. Après cette irruption de la guest star, on va commencer les premiers aphorismes du Tractatus. Rassurez-vous, je vais pas, on va pas, comment dire, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Voilà. J'avais promis qu'on commenterait ensemble les premiers aphorismes du Tractatus, mais je voulais quand même d'abord qu'on passe par la présentation rapide de l'avant-propos. L'avant-propos qui spoile tout, hein. Vous avez vu, on a tout spoilé. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est un peu comme dans Columbo. On a la philosophie qui est par terre, qui gît au sol, couverte de sang. On a Wittgenstein qui tient le flingue dans la main. On sait qui est le coupable, on sait qui est la victime. On sait, on connaît toute l'affaire. Maintenant, on va faire comme dans Columbo. On va voir comment on en est arrivé là. On va voir comment Wittgenstein en est arrivé à ses conclusions. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de suivre son raisonnement et d'essayer de comprendre où il veut en venir. Et là, franchement, quand on suit son raisonnement, on apprend plein de choses. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, vous voyez que le Tractatus, quand même, on commence par le commencement. Je vais peut-être mettre deux pages. Je ne sais pas si on peut mettre deux pages côte à côte. Je ne sais plus me servir de ça. Je suis bien, hein, je suis un mec bien. Taille réelle. Comment on fait pour mettre deux pages côte à côte là? Ah oui, c'est là. Les options. Tac. Je vais mettre. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y avait des piles, monsieur? Putain, ça marche pas, évidemment, ça marche jamais. Bon. Tant pis, ça marche pas de mettre les deux pages. Mais ce que je voulais vous montrer juste rapidement par rapport au Tractatus, c'est que vous avez vu comment c'est présenté ce truc. C'est même pas un texte, quoi. Le mec s'est même pas fait chier à faire des phrases, quoi. Enfin, si, il s'est fait chier à faire des phrases. Mais c'est même pas fait chier à faire des paragraphes, quoi. Le gars, il s'est. Putain! Il s'est même pas emmerdé! Il a juste écrit des points, des trucs. C'est une liste! C'est une liste de courses! Le mec fait une liste de courses, putain! C'est ce que dit fille de prof, il a trop raison. C'est juste une putain de liste. Mais le gars, mais vraiment, mais il se fout de notre gueule. Mais moi, ça me donne envie de rage quit direct. Hein. Je vois un jeu de rôle qui est organisé comme ça. Je dis, mais putain, mais casse-toi, quoi. Mais casse-toi, pauvre con. Ah non, pas ça. Pas casse-toi, pauvre con. Ça, j'ai pas le droit de dire ça. Mais non, quoi. Enfin, bref. Donc, vous voyez ici qu'on a le Tractatus qui est organisé en points. Comme des gros titres. Vous voyez, je trouve ça élégamment ça. Moi aussi, fille de prof. J'adore cette présentation, je la trouve géniale. On a en fait un ensemble d'aphorismes qui sont organisés en fait en sept parties. On a la partie 1, la partie 2, la partie 3, donc qui est plus loin, et la partie 4, la partie 5, jusqu'à la partie 7. La partie 7 étant le dernier aphorisme du Tractatus, qui est sur ce dont on ne peut parler. Il faut garder le silence, qui sera la dernière partie. Et vous notez d'ailleurs que cette partie, il n'y a que un aphorisme 7, il n'y a pas de commentaire en dessous. Parce que le Tractatus est organisé comme suit. Le type appelle sa partie 1, il énonce une proposition, par exemple le monde et tout ce qui a lieu. Et ensuite, en fait, la 1.1, c'est un commentaire du numéro 1. Le 1.2, c'est un commentaire du numéro 1. Le 1.3, etc. Ensuite, le 1.1.1, c'est un commentaire du 1.1. Vous voyez, c'est organisé comme ça. Donc en fait techniquement ce qu'il faudrait faire c'est faire des espèces de décalage. Je suis en train de montrer à l'écran mais ça n'a aucun sens, vous ne voyez pas. Mais il faudrait en fait décaler en fait les paragraphes pour voir lesquels correspondent auxquels, etc. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans le sens, il y a un moment donné où je me suis marré à écrire des trucs un peu comme ça, et j'ai essayé d'écrire en décalant pour que ce soit un petit peu plus clair de savoir qu'est-ce qu'est le commentaire de quoi. Brand nous dit, c'est vrai que niveau maquette et illus, c'est pas fessué le mec, hein. C'est clair, hein. C'est clair. C'est clair que c'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. En termes de maquette et d'illus, c'est pas fou. Hein. Et ce serait intéressant d'ailleurs de demander peut-être à une IA ou, je sais pas, ou à ChatGPT d'écrire des paragraphes qui manquent. On pourrait s'amuser, je pense, avec le Tractatus et une IA, à essayer d'imaginer une maquette faite par des IA du Tractatus. Voilà. Ça pourrait être assez rigolo. Il y a des gens qui l'ont chanté, il y a des gens qui l'ont poétisé, il y a des gens qui l'ont slamé. Le Tractatus, il en existe plein de versions. Il y a des gens qui l'ont imprimé sur du papier cul. Il y a plein de choses qui ont été faites avec le Tractatus. C'est un objet. En fait, en lui-même, en fait, ce texte et la façon dont il est présenté, c'est un objet en fait, un objet d'art en fait, enfin qui est devenu un peu un objet de culte d'art contemporain, enfin de plein de choses. On aura l'occasion de revenir peut-être sur les héritages du Tractatus s'il y a des questions dans ce sens-là. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il est présenté comme ça. Donc du coup, faire un commentaire des premiers aphorismes, c'est lire le premier aphorisme et lire en fait les commentaires qui sous-jacent en fait de ce premier aphorisme. Donc nous en fait, regardez la partie 1, ça va, hein, ce que je vous ai promis, ce sur quoi je vous ai promis qu'on allait parler ce soir, ça va, c'est 7 aphorismes seulement. Sauf que ça prend des plombes de lire cet aphorisme de Wittgenstein. En fait, j'avais un prof qui disait, combien de livres auraient été plus courts s'ils avaient été plus longs? Et ce livre, c'est exactement le genre de livre qui est d'autant plus long qu'il est trop court. Les phrases laconiques de Monsieur Ludwig Wittgenstein mettent des plombes à être comprises, alors que s'il avait fait peut-être des paragraphes plus clairs, plus explicatifs, le livre aurait été moins long à comprendre. Vous voyez où je veux en venir? Combien de livres auraient été plus courts s'ils avaient été plus longs? Voilà. Et celui-là, en fait, ça aurait un livre qui aurait mérité d'être un peu plus long. Mais heureusement, 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 mesdames et messieurs, pour la modique somme de 58 francs, vous pouvez acquérir les carnets. Les carnets 14-16, qui sont les carnets préparatoires du Tractatus Logico-Philosophicus. Et les carnets préparatoires du Tractatus Logico-Philosophicus nous donnent à voir, à contempler, des paragraphes beaucoup plus longs concernant les propositions, les aphorismes énoncés dans le Tractatus. Donc les carnets 14-16 sont une excellente porte d'entrée vers la compréhension de ces aphorismes. Et évidemment, les streams que nous allons faire sont également une excellente porte d'entrée vers le Tractatus Logico-Philosophicus. N'ayons pas peur des mots. Alors, toutes mes versions du Tractatus ont été mangées par un enfant. C'est Soren qui a fait ça. Il a bouffé mes Tractatus. Il a bouffé, putain! Il a dévoré Wittgenstein quand il était bébé, cette espèce de machin. Et donc, du coup, toutes mes versions, tous mes Tractatus, mes trucs sont complètement dégueulasses. Ils sont bouffés, il y a de la bave dedans, il y a des morceaux arrachés et tout. Mais j'y tiens, c'est les miens, donc voilà. Donc, je vous conseille d'en acheter d'autres, hein, des plus neufs. Hein. Mais les carnets 14-16, excellente porte d'entrée, parce que des grands paragraphes, et donc un livre plus long, et donc plus court que le Tractatus, si vous avez compris. Tout cela, tout cela. Alors, on continue. Je vais rapidement regarder le chat. Le mec, il avait même inventé les DLC. Mais putain, mais oui, Brand. Tout à fait, il avait inventé les DLC, quoi. Non, mais il a tout inventé. C'est parce que nos profs nous ont pas tapé assez fort qu'on comprend pas le Tractatus. Bah, bien sûr. Combien de livres auraient été plus courts si les élèves, on les avait frappés avec? C'est ça, c'est très certainement ça. Référence à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait que Wittgenstein croyait qu'il fallait frapper les élèves fort pour leur faire apprendre des choses. Raison pour laquelle il a été accusé à raison, c'est la vérité, d'avoir frappé des enfants lorsqu'il était enseignant. Vraiment pas le réflexe promotionnel, le Romaricain. Pourquoi tu dis ça, François? Il a donc un régime alimentaire carnet, Soren, oui, c'est vrai. Il mange du carnet. Alors, et si on commençait à lire? Oh oui, oh là là! Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien! Vous savez, j'ai tellement hâte de. Ce truc que je veux le faire avec les auditeurs de la cellule depuis des années, de lire le Tractatus et de le commenter. Mais c'était chiant, en fait. Ça se prête absolument pas à l'audio. Alors que là, en visuel, on va pouvoir se marrer, vous allez pouvoir me poser des questions, on va pouvoir regarder ce qu'il raconte, on va pouvoir se moquer de Wittgenstein un petit peu. Enfin, ah, on va pouvoir s'amuser. Alors, donc, on y va, c'est parti. Premier aphorisme du Tractatus, c'est le monde est tout ce qui a lieu. Ah ouais, ça fallait y penser, hein. C'est pas con, hein. C'est pas con. Le monde est tout ce qui a lieu. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait rendre faux cette phrase? Moi, je me dis, parce que quand je me retrouve face confronté comme ça à des aphorismes, j'aime bien imaginer leur espèce de contraposé ou leur. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquelles il y a des choses qui font partie du monde et pourtant qui n'ont pas lieu. Est-ce qu'il existe des événements, des choses en fait qui pourraient faire partie du monde mais qui n'auraient pas lieu? Et moi, la première question que je me suis posée quand j'ai lu cet aphorisme, c'est qu'est-ce qu'on fait du passé et du futur? Est-ce que le monde se réduit uniquement à ce qui a lieu en ce moment? Est-ce qu'on a envie de mettre après ce qui a lieu, on a envie de mettre maintenant, ici, tout de suite, dans l'instant, avec un I majuscule? Ou alors est-ce que ce qui a lieu, c'est tout ce qui a eu lieu? Auquel cas le Tractatus serait éterniste, au sens de Baptiste Le Bihan, c'est-à-dire que tout ce qui a lieu, c'est... Par exemple, est-ce que Jules César a franchi le Rubicon, par exemple? Est-ce que ça a lieu? En quel sens ça a lieu? Ça a eu lieu, mais est-ce que ça a encore lieu? Et le fait que Jérôme Larré va aller se coucher, par exemple, dans d'ici 5 minutes, là, parce qu'il va en avoir marre de m'écouter parler, ça va avoir lieu. Ça n'a pas eu encore lieu, apparemment, il est encore dans le chat. Mais est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que Jérôme Larré va se coucher, donc j'ai dit dans 5 minutes, donc à 22h52? Est-ce que ça, c'est une proposition? Est-ce que ça a lieu? Alors que ça n'a pas encore eu lieu? Vous voyez où je veux en venir? Le monde est tout ce qui a lieu. Qu'est-ce qui veut dire Wittgenstein? Est-ce que c'est ce qui a lieu maintenant? Est-ce que c'est ce qui a lieu dans le futur? Est-ce que ça voudrait dire que... est-ce que c'est ce qui a lieu? Donc, est-ce que tout ce qui a lieu, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la première question que je me suis posée. Et en fait, on va voir que cette proposition-là, elle a un intérêt dans la pensée de Wittgenstein. C'est que définir le monde comme ce qui a lieu, c'est définir le monde de façon à le rendre adéquate au langage. J'aurais presque envie de dire, pour reprendre une terminologie de vendeur de télé, définir le monde comme tout ce qui a lieu, c'est rendre le monde langage ready. Vous voyez, comme les DDD qui sont HD ready, HDMI ready, ou je sais pas quoi. Comme nous, en France, on est fasciste ready. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'on a une population qui est prête au fascisme. On sent qu'on a envie, là. On a envie du fascisme. On a envie, là. Oh, on le sent, là. Le monde, en le décrivant comme tout ce qui a lieu, il est langage ready. C'est-à-dire que le monde, là, on sent que dans la définition qu'en donne Wittgenstein, il va vouloir faire en sorte que le monde puisse être décrit par le langage. Et c'est pour ça qu'il le décrit comme ça, comme tout ce qui a lieu. Mais entrons un petit peu plus dans le détail. Et donc passons au 1.1. Bon, on nous dit qu'il n'aura pas, se coucher sans tirer une ou deux balles avant. J'espère que je ne suis pas dans le champ de tir, hein. Le fait que le futur advient au présent, non. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si Brand va se coucher à 22h53, imaginons cette proposition, Jérôme Larré va se coucher à 22h53. Imaginons que je dis cette proposition-là. Si elle est vraie, maintenant, là, ça veut dire que dans le futur, Jérôme Larré ira bel et bien se coucher à 22h53. Donc ça, c'est... Ça, c'est un premier élément. Ça pose la question de la possibilité de la liberté. Ça pose la question de la liberté de Jérôme Larré, tout simplement. Si on dit de cette proposition qu'elle est vraie dès maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas possible que Jérôme Larré n'aille pas se coucher à 22h53. Ça veut dire que la vérité, le fait qu'une proposition puisse être sur le futur, puisse être vrai ou fausse, ici, maintenant, tout de suite, ça veut dire que le futur est déjà écrit. C'est-à-dire que sur le plan sur le plan des conditions d'obtention de la vérité d'une proposition, on postule le fait que le monde, si c'est tout ce qui a lieu, et si ce qui a lieu dans le futur a lieu aussi, et a lieu déjà, ici et maintenant, il a lieu, c'est nécessaire en fait qu'il ait lieu, etc. Ben on postule que le monde a eu un commencement et une fin, et que tout ça est en ce moment même. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue, le présent, n'est qu'une illusion, de la nature humaine. Et qu'en fait, tous les faits du monde sont disposés, les faits passés, présents et futurs, sont disposés, sont la disposition du monde. Et donc que, en fait, finalement, le présent n'est qu'un point de vue sur ces faits. Et ce n'est qu'un point de vue. Donc ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un premier élément par rapport à la question de la vérité, enfin de la. Des conditions d'obtention, des critères de vérité, putain! C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Les critères de vérité de la proposition. Il nous dit que Jérôme Larrey nous dit qu'il a des suppléments à écrire. Et du coup, notre amusement ne ferait pas partie du monde, c'est triste. Alors attends, donc il faut que je remonte un peu. C'est une belle hérésie dans d'autres disciplines que la philo, mais du coup, le maelstrom ne fait donc pas partie du monde. Le maelstrom ne fait pas partie du monde. Il n'a pas lieu. Alors, ça dépend. L'activité, le fait de se poser des questions en vue d'énoncer des propositions ne fait pas partie du monde, Jérôme. Non. Il ne fait pas partie du monde. Le maelstrom ne fait pas partie du monde. Selon les définitions données par le Tractatus, encore une fois, selon le monde du Tractatus, c'est tout ce qui est, tout ce qui a lieu, et donc tout ce qui peut être décrit par une proposition vraie. Or, le maelstrom, donc le phénomène de se poser des questions collectivement en vue de créer donc un contenu fictionnel malléable, eh bien, ça ne fait pas partie du monde parce que les questions, juste les questions, ne font pas partie du monde. Les interrogations, tout ce qui est de l'ordre de la question n'est pas n'a pas la forme d'une proposition et donc ne fait pas partie du monde. Donc le maelstrom ne fait pas partie du monde. Non, c'est triste. Et du coup, notre amusement ne ferait pas partie du monde. Et non. La joie ne fait pas partie du monde. Et non, effectivement. La joie n'a pas lieu. La joie est un état d'esprit, est un état du sujet transcendantal, nous dira Wittgenstein plus loin. Mais t'anticipes un peu, Jérôme, hein? Tu es déjà dans la partie 6, là. Ou 5-6. Attends. Attends un peu. On reste d'abord dans le monde, et puis après on verra comment les individus acquièrent des propriétés existantes, enfin acquièrent des propriétés mentales au sujet des faits du monde. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Brand, dans le même sens que le Père Noël existe, mais à l'image d'un personnage de fiction, point d'interrogation, il existe dans l'espace imaginaire commun à plusieurs personnes. Non, je pense que le maelstrom, du point de vue de la définition. Bonne nuit, nous dit Brand. Oui, Ah, il est couché! Il est 22h53! Putain! T'es fort, Jérôme, bravo! Quel animateur! Quel animateur incroyable, ce Jérôme, il a tout compris! Tac, ok, donc voilà. Donc, non, alors Rosargue répond à Jérôme en disant que le personnage, par exemple, du Père Noël existe en un sens dans un espace imaginaire, etc. On verra ça peut-être quand on parlera de l'espace logique des faits, Rosargue. Mais en tout cas, dans la définition qui est donnée ici, dans le premier aphorisme du monde, clairement, l'espace logique n'y est pas encore. On verra que l'espace logique apparaît avec le langage quand il s'agit de savoir quelles sont les propositions possibles, quelles sont les propositions qui sont possibles d'imaginer, donc quelles sont les propositions qui donnent lieu à une image. Et à ce moment-là, on verra que effectivement le Père Noël, en ceci qu'il peut faire, les propositions sur le Père Noël, en ceci qu'elles peuvent produire des images, font bel et bien partie de l'espace logique des faits, mais elles ne font pas partie du monde, Rosargue. Donc le monde tel qu'il est défini là, comme ce qui a lieu, le Père Noël n'en fait pas partie. Par contre, dans la mesure où le Père Noël produit en nous des images, et où je peux dire par exemple le Père Noël emballe des cadeaux pour Romaric, eh bien à ce moment-là, oui, parce que le Père Noël il emballe les cadeaux pour les gens gentils. Donc, je suis quelqu'un de gentil, il emballe des cadeaux pour moi, avec ses petits lutins. Voilà, dans l'espace logique. Donc le fait qu'on puisse avoir des images au sujet du Père Noël et qu'on puisse imaginer le Père Noël en train d'emballer un cadeau pour moi, eh bien ma foi, c'est la preuve qu'il fait partie de l'espace logique des faits, mais ce n'est pas la preuve qu'il fait partie du monde. Attention à bien distinguer les deux. On dit que Jérôme n'est pas libre, puisqu'il a des suppléments à écrire, c'est parfaitement vrai. Et il a usé de sa liberté pour, nous dit Jérôme, pour faire des suppléments, très bien. Tac tac tac. L'immatériel existe au sens de Wittgenstein autant que le matériel, si je ne m'abuse. Ce n'est pas la matérialité qui importe, mais que les choses puissent entrer en relation avec d'autres. Alors ça, c'est du point de vue du langage, encore une fois, mais je pense que François, là, j'ai répondu à ta question à travers la remarque que je faisais à Rosargue tout à l'heure sur le Père Noël. On va voir. On va voir tout. Je sais que vous avez envie d'anticiper tout ça. Il faut vraiment éviter de confondre. Attention. Le monde. C'est tout ce qui a lieu. C'est pas ce qui pourrait avoir lieu. C'est tout ce qui a lieu effectivement. Donc, le Père Noël, ça pourrait avoir lieu. Il pourrait y avoir un gros bonhomme qui emballe des colis pour Romaric Briand. Un gros bonhomme. Ah, par exemple, si vous prenez, par exemple, il pourrait y avoir un gros bonhomme barbu qui emballe des colis pour Romaric Briand, habillé en rouge, avec des lutins, etc. C'est une possibilité, logiquement, du point de vue du langage, on peut construire une image avec ce gros bonhomme rouge. Mais ce n'est pas dans le monde. Le monde, c'est que ce qui a lieu. C'est pas ce qui pourrait avoir lieu. Vous savez que dans le monde, il n'y a pas le Père. Vous êtes au courant quand même. Attendez. Attendez, je ne vais pas vous spoiler quand même si je vous dis que le Père Noël n'existe pas. Vous êtes. Attendez. Vous êtes au courant que le Père Noël n'existe pas quand même dans le chat là. Vous savez quand même. Jérôme est couché, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Le Père Noël, ça n'existe pas. Vous êtes. Oh bon, voilà. J'espère que j'ai spoilé personne, hein, mais bon. Donc le Père Noël n'a pas lieu, hein. Oui, bah oui, bah forcément. Voilà. Donc le Père Noël n'a pas lieu. Je suis. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, le Père Noël n'a pas lieu. Hein. Le Père Noël n'a pas lieu. Bon. Donc voilà, le monde est tout ce qui a lieu. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec ces différentes réflexions que vous nous avez faites, ça a permis quand même de bien comprendre ce que voulait dire Wittgenstein ici. Wittgenstein ajoute une petite précision qui est que le monde est la totalité des faits, non des choses. Alors cette proposition-là, elle est majeure. Elle est majeure, mais vous savez quoi? Il est 23h. Et j'ai promis que mes streams seraient un peu moins longs. Et donc du coup, je pense que sur ce cliffhanger incroyable et cette révélation du Père Noël, parce que je sens que ça vous a perturbé, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Hélas, j'avais promis que j'arrêterais plus tôt. Mais évidemment, on continuera toute cette conversation ensemble. On évoquera le 1.1, le monde est la totalité des faits, non des choses. Et on verra que cet aphorisme est une bombe philosophique, qu'elle remet en question tellement de choses que vous croyez, derrière cet écran, vous croyez que le monde est la totalité des choses. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Et vous vous trompez, et on verra ça la prochaine fois. La prochaine fois, je t'expliquerai pourquoi le monde n'est pas la totalité des choses, mais la totalité des relations. Mon Dieu, Jérôme n'était pas couché. La fin du stream ne fait pas partie du monde. Et non, la fin du stream ne fait pas partie du monde. Donc, je pense qu'on a déjà bien commencé l'analyse de Ludwig Wittgenstein. On a bien. Je pense que vous avez vu à quoi vont ressembler ces streams autour de Wittgenstein. Je pense que vous voyez que ça va être sympa. On va essayer d'interagir comme ça les uns avec les autres. On va essayer de se poser des questions, de comprendre un petit peu mieux où il veut en venir avec le Tractatus. Et donc de continuer comme ça cette étude. Donc, je serai. Pour répondre aux questions dans le chat, je suis en streaming tous les premiers mardis du mois. Donc il y aura un stream par mois. Si vous aimez ces rendez-vous sur Vidéochat, la prochaine fois, j'espère avoir recevoir une invitée la prochaine fois. Honnêtement, j'espère recevoir Camille Lefebvre. Je nourris le secret. Je caresse l'espoir d'être en streaming avec Camille Lefebvre. Si c'est pas possible, parce que j'ai l'impression peut-être qu'elle est partie à l'étranger. C'est une possibilité parce qu'elle ne répond plus à mes mails depuis un certain temps. Je pense qu'elle a dû quitter le territoire français. Peut-être qu'elle n'a plus accès à ses mails. Peut-être qu'elle est partie en vacances. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Le prochain stream, ce sera avec Camille Lefebvre. Mais à chaque fois que ce sera possible, donc entre les actus, les machins, comment dire, rendez-vous avec des auteurs, beaucoup d'autrices d'ailleurs, avec des autrices donc sur ce créneau, on parlera de Wittgenstein et donc on fera comme ça des petites incartades dans le Tractatus. En attendant, les amis, merci beaucoup pour vos commentaires dans ce chat. Merci beaucoup d'être passé, François, Rosargue, Momie, fille de prof. Merci beaucoup à Jérôme Larré d'être venu également, à Diamtus. Et à Boudi à tous les autres d'avoir participé à cette émission. C'était formidable. En plus, vous avez été plein. Il y a eu plein de premières fois, plein de personnes, de Barbu 422, là où je sais plus quoi, Dotchap, At, plein de nouvelles personnes en fait à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci à Antoine Faure aussi d'être venu. Merci à Gali. Et j'oublie des gens qui sont venus sur ce stream. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le stream s'il vous a plu. Je le partagerai sur YouTube. Je le découperai encore en deux morceaux. Sans doute un morceau actu et sans doute un morceau de commentaire du Tractatus pour en faire des audios. Sur le podcast disponible qui sont disponibles sur le podcast de la cellule. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver les audios par ce biais-là et j'essaierai comme ça de limiter mes streams à 2 heures parce qu'après je suis crevé et je confie des choses sur Mylène Farmer à tout le monde et je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée, surtout pour Mylène Farmer. Conclusion. Quelle conclusion lamentable. Mais où est-ce que je vais pondre ces putains de conclusions de merde? Merci beaucoup à vous, c'est ça qui compte. Portez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. À très bientôt tout le monde. Allez, je vous laisse. Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt!